Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Salut, c'est Hugo de Hugo Décrypte. Bienvenue sur le podcast des actus de Mashup. Alors, chaque mercredi à 20h dans mon émission Mashup en live sur la chaîne Twitch Hugo Décrypte, on revient sur deux grands sujets d'actualité et on prend le temps d'en discuter ensemble avec mes invités dont vous pouvez retrouver les informations en description. Bref, si jamais vous loupez une fois le live sur Twitch, eh bien, pas d'inquiétude puisque donc le podcast est là. N'hésitez pas à vous abonner, mais c'est pas encore le cas, pour ne pas louper les suivants et pour découvrir l'autre séquence de cette émission, à savoir ma rencontre chaque semaine avec une grande personnalité pour revenir sur son parcours, eh bien vous pouvez taper Mashup l'interview. Voilà, je crois que j'ai tout dit, je vous souhaite une bonne écoute.
Dans l'actualité, il y a donc ce nouveau rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Alors je dis nouveau rapport, mais en fait c'est le troisième et dernier volet du sixième rapport du GIEC. Le premier volet est paru en août, le second en février. Tous les deux ont fait beaucoup parler, on a eu l'occasion d'ailleurs d'en parler énormément sur notre chaîne YouTube, notre compte Instagram, etc. ces derniers jours. Et donc là, eh bien, 278 scientifiques du monde entier ont travaillé sur ce troisième volet. Et ce soir, eh bien, l'une des co-auteurs de ce dernier volet de ce rapport est avec nous. C'est Céline Guivarche. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup vraiment d'être présente ici pour échanger sur ce sujet forcément essentiel. C'est intéressant évidemment de parler du contenu du rapport. On va prendre le temps d'en parler aujourd'hui. Mais déjà avant ça, de comprendre de quoi est-ce qu'on parle quand on parle du GIEC et quand on parle de ce rapport. On parle de centaines de scientifiques, on parle de... C'est des choses qui sont assez impressionnantes. Comment ça se passe, un rapport du GIEC? Comment est-ce que ça s'élabore? Est-ce qu'il y a des particularités, disons, avec d'autres formes de rapports qui peuvent exister?
Alors, tout à fait. Le GIEC, hein, donc le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, en fait, c'est une organisation de l'ONU. Et les membres du GIEC sont les États. Et sous l'égide de l'ONU, le mandat du GIEC, c'est de faire... La synthèse de l'état des connaissances scientifiques sur le changement climatique. Et donc, on fait ça à travers des rapports qui sont... il s'est organisé en trois groupes. Il y a un groupe sur la physique du climat, la compréhension des mécanismes qui sont à l'œuvre. Il y a un groupe qui... Donc ça, c'est le groupe 1, le rapport sorti
en août. C'est le premier rapport qui est sorti
exactement.
En août.
Le deuxième, c'est sur les impacts du changement climatique, la vulnérabilité des écosystèmes et des sociétés humaines à ces effets et les solutions pour s'adapter à un climat qui a déjà changé et qui va continuer à changer. Et puis le troisième groupe, celui pour lequel j'ai été auteur du volet qui vient de sortir, travaille sur l'atténuation. Alors l'atténuation, ça veut dire quoi? Ça veut dire la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les gaz à effet de serre qui sont la cause du changement climatique, et la réduction pour limiter l'ampleur du phénomène et en éviter les effets les plus graves.
Donc c'est la question davantage des solutions, on pourrait dire, qui sont envisagées. Je ne sais pas si on parle de proposition du GIEC, mais est-ce que c'est en tout cas indiqué comme étant possible. Première question un peu générale pour comprendre ce que dit ce dernier volet. Que dit en fait ce nouveau rapport? Quelle est un peu la grande leçon générale? Et d'ailleurs, tu parles d'atténuation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait déjà qu'on est sur un chemin où il y aura des conséquences et on essaie de les limiter le plus possible?
Dans ce que les grands messages de ce rapport, il nous dit d'abord que ces dernières années, de plus en plus de mesures et de politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont été mises en œuvre dans un grand nombre de pays, dans un grand nombre de secteurs, et qu'on a les preuves pour pouvoir dire que ça a permis d'éviter des émissions de gaz à effet de serre. Par contre, les émissions de gaz à effet de serre mondiales, donc les gaz à effet de serre, hein, le dioxyde de carbone, CO2, le méthane,
on connaît en général,
CH4, protoxyde d'azote, etc. Donc les émissions mondiales de gaz à effet de serre ont continué à augmenter, mais la vitesse d'augmentation a ralenti. On est sur la dernière décennie à 1,3% par an. Avant, c'était 2.
Est-ce qu'il y a des pays qui ont réussi à baisser ces chiffres-là ?
Alors effectivement, il y a des pays où les émissions qui ont lieu sur le territoire des pays ont baissé dans la dernière décennie. Okay. Par contre, on ne fait pas la liste de ces pays-là.
Ok, très bien. Donc ça, c'est une première leçon là-dessus. Et pour aussi bien comprendre de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui, parce que c'est un sujet, j'en suis conscient, qui peut paraître assez complexe, mais qui est essentiel à traiter, il y a la question des accords de Paris, au final, et des objectifs qui étaient fixés, notamment en 2015, à l'occasion de la COP21 et des accords de Paris. On entend souvent parler d'une limite de 1,5 degré qui est évoquée. Juste pour rappeler aussi l'un des objectifs généraux là-dessus, c'est quoi l'objectif qui est souvent énoncé ?
Alors, déjà, on peut peut-être rappeler qu'aujourd'hui, on mesure une augmentation de la température annuelle moyenne du globe de un peu plus de 1 degré et qu'on observe aussi des effets associés, fonte des glaces, augmentation des événements extrêmes, etc. Donc, on pourra parler éventuellement.
Ouais, bien sûr.
Et donc, l'objectif que la communauté internationale s'est donné dans le cadre de l'accord de Paris, c'est de stabiliser l'augmentation de la température bien en dessous de 2 degrés, avec un objectif plus ambitieux d'essayer de stabiliser en dessous de 1,5 degré. Donc, ce que nous montre le rapport, qui évalue aussi des trajectoires futures d'émissions de gaz à effet de serre mondial qui seraient compatibles avec ces objectifs-là, nous montre que seules des réductions immédiates et soutenues des émissions de gaz à effet de serre mondial seraient à même de nous mettre sur une trajectoire compatible avec 2 degrés et qui plus est 1,5 degré.
C'est la question du coup des fameux 3 ans qui ont été, je pense, à la une de beaucoup de médias depuis lundi, la diffusion de ce volet-là. On a lu beaucoup, l'humanité dispose de 3 ans pour réagir, etc. Ça veut dire quoi réellement? D'où ça vient dans ce rapport et qu'est-ce qu'il dit concrètement?
Alors, ce rapport ne dit pas ça.
Ouais.
C'est vraiment.
Je peux comprendre, c'est pour ça que je pose la question.
C'est une interprétation des médias. Je pense que ce qui est important de retenir, c'est finalement qu'il est jamais trop tard pour agir, mais qu'il est aussi jamais trop tôt pour agir. Je vais essayer d'expliquer l'affaire. Il est jamais trop tôt pour agir. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui déjà, on observe un changement climatique qui a des effets négatifs sur les écosystèmes et sur les sociétés humaines, avec des pertes et des dommages dans toutes les régions du monde. Et donc, l'objectif, c'est de limiter ce changement climatique et ses pertes et dommages. Et on sait qu'avec chaque fraction de degré supplémentaire, on a des risques, des effets négatifs qui s'amplifient, qui deviennent de plus en plus complexes à gérer, avec des menaces sur la sécurité alimentaire, sur l'accès à l'eau, sur la santé humaine, etc. Et donc, en fait, chaque fraction de degré qu'on évite permet d'éviter ces risques et ces dommages. Donc ça, c'est il n'est jamais trop tôt pour agir.
Pour ouais.
Et pourquoi il n'est jamais trop tard? C'est parce qu'on n'a pas un seuil au-delà duquel c'est fini.
Ouais.
Et donc, si on loupe 1,5 degré, c'est 1,51 degré qu'il faut viser,
mais à chaque fois,
etc.
Plus on loupe de choses, plus les conséquences risquent d'être dramatiques, pour résumer la situation. Quoi.
Exactement.
D'où le fait d'agir le plus tôt possible.
Exactement, et c'est là ce que montre le rapport, c'est seules des réductions immédiates et soutenues nous permettraient de rester en dessous de 2 degrés. Et derrière ces réductions immédiates et soutenues, c'est en fait des transformations assez majeures de tous les grands secteurs.
Et justement, pour ces transformations-là et pour bien comprendre ce dont il s'agit dans les solutions qui sont envisagées, je serais preneur en fait d'une forme de résumé, ce serait évidemment impossible de tout résumer en quelques mots, mais des grandes solutions qui se dégagent et que vous pourriez citer pour donner un peu des exemples de ces solutions. Quelles sont les solutions majeures qui ressortent selon toi?
Ouais. Alors, je vais commencer par dire que il y a des mauvaises nouvelles. Dans le rapport, il y a aussi des bonnes nouvelles qui sont que les options qui sont disponibles aujourd'hui pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, si elles sont mises en œuvre collectivement, elles sont à même de réduire à l'horizon 2030 les émissions, de diviser à peu près par deux les émissions mondiales. Et c'est ce qu'il faudrait faire pour être compatible avec bien en dessous de 2 degrés. Donc en fait, les solutions, elles existent, ce n'est pas une histoire de technologie qu'il faudrait encore inventer. maintenant, on peut peut-être essayer d'aller dans le panel et vraiment dans tous les secteurs. Hein. Donc, on peut prendre dans le secteur des transports, par exemple. Il y a d'abord des solutions pour chercher à éviter certains déplacements de personnes ou de marchandises. Éviter des déplacements de marchandises, ça peut passer par repenser les chaînes de production pour éviter certains déplacements de marchandises.
Et passer par une production peut-être plus locale ou une économie plus,
exactement.
Plus locale dans la mesure du possible.
Éviter des transports de personnes, bah, ça peut être le télétravail pour les activités qui s'y prêtent, ça peut être des téléréunions pour éviter des déplacements. Ça peut être aussi, ça peut passer aussi par repenser l'urbanisme et la façon dont sont construites nos villes pour que finalement les services de base soient accessibles plus facilement à la santé, à l'éducation, etc. Que les distances soient. Donc voilà, on a tout un ensemble de solutions là. Après, il y a tout un ensemble de solutions pour reporter les déplacements vers des modes qui sont peu émetteurs de gaz à effet de serre. Donc, les modes de transport qui sont émetteurs, c'est l'avion et la voiture.
À remplacer, dans la mesure du possible, par le train.
Par les transports en commun, par le vélo, par la marche. Et puis après, il y a, toujours sur les transports, par exemple, il y a des solutions qui sont sur l'amélioration des véhicules en eux-mêmes, l'efficacité énergétique, le fait que les véhicules soient légers pour ne pas consommer beaucoup d'énergie, et d'électrifier aussi, à condition que la production d'électricité soit pas faite à base d'énergie fossile.
De charbon ou autre, parce que ce serait un peu problématique.
Donc ça, c'était un exemple sur les transports, mais finalement, dans chacun des secteurs, il y a comme ça tout un panel de solutions.
Et quand on parle de ces solutions-là, justement, c'est des solutions qui sont... parce que la question qu'on voit souvent quand on s'intéresse à ces sujets-là, c'est la question de la responsabilité ou alors des actions, des modes d'action et qui doit mettre en place telle ou telle chose. Est-ce que c'est du ressort de chaque citoyen de prendre ses initiatives? Est-ce que c'est de l'ordre des entreprises ou des États? Est-ce que c'est de l'ordre de tout le monde, mais certains peuvent avoir plus d'impact que d'autres, pour résumer les choses? Là, que dit le rapport là-dessus? C'est des... J'imagine des choses qui sont partagées, mais avec... comment est-ce que vous voyez ça?
L'ampleur des transformations dont on parle nécessite des politiques publiques à tous les échelons, depuis les communes jusqu'au pays, et aussi l'organisation d'une solidarité internationale sur la question. Mais ce que montre aussi finalement le rapport, c'est que la façon que ce soit le plus efficace, c'est si tous les acteurs sociaux sont impliqués, donc les citoyens, la société civile, les syndicats, les entreprises, et qu'il y a des acteurs qui ont aussi un poids particulier, les médias, par exemple, qui contribuent à forger les normes sociales. Et donc, c'est effectivement, on est sur des transformations qui sont tellement majeures que c'est la responsabilité de tous.
Et ce que tu disais, c'est qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place dès maintenant. Et il y a, dans les solutions qui sont évoquées, il y a quand même une question qui ressort sur les technologies potentielles qui pourraient nous aider. On parle de captation potentielle de carbone, c'est des questions qui reviennent notamment dans ce dernier volet-là. Est-ce que, c'est une question qui est assez simple, mais est-ce que des technologies aujourd'hui peuvent réellement nous aider dès maintenant? Et si oui, quel genre de technologies?
Alors, oui, quel genre de technologie? Le vélo électrique, le train, les méthodes pour isoler les bâtiments, des matériaux innovants qui permettent d'utiliser moins de ciment dans la construction, par exemple. Voilà de quoi, en fait, on parle. Le véhicule électrique qui pose des questions de ressources en minéraux, mais qui, si on a fait tout le reste avant, est une solution aussi. Et donc, tout ce qui... Oui, les recherches sur les batteries pour les améliorer, faire diminuer leurs coûts, etc., tout ça, c'est des choses qui aident, oui.
Et l'idée, c'est quoi? C'est de dire que du coup, les solutions, on les a dès aujourd'hui et il ne faut pas se dire que, en fait, on aura. Enfin, on le voit notamment, même dans des fictions, parfois, c'est illustré dans Don't Look Up que tu as sûrement, sûrement vu. Il y a cette recherche d'un grand gourou de la tech qui, un jour, va amener la technologie qui va permettre de sauver l'humanité ou une partie de l'humanité, d'ailleurs, justement. Toi, ce que tu dis, enfin, ce que dit d'ailleurs le rapport, c'est que des technologies ou des solutions, elles sont présentes en réalité dès aujourd'hui. Et en fait, du coup, ça peut être mis en place s'il y a cette volonté dès maintenant, ça.
Exactement. En fait, il me semble que, bon, on aimerait tous qu'il y ait une technologie, une technologie miracle qui nous évite de réfléchir à finalement transformer les choses. Mais transformer les choses, ce n'est pas forcément renoncer. Et ça peut être créer un monde meilleur parce qu'il y a aussi des bénéfices sur la qualité de l'air, sur la santé. Sur... Et donc, voilà, les solutions, franchement, elles sont là. Parfois... De façon intentionnelle ou pas, dans les discours, quand on parle de ces technologies qui nous arriveraient plus tard, c'est une façon, on appelle ça les discours du délai, c'est une façon finalement de se dédouaner, d'agir maintenant. Alors il faut faire attention parce que ce qui compte pour le changement climatique, c'est le cumul des émissions sur la trajectoire. Ce n'est pas le niveau d'émissions auquel on va arriver en 2050, c'est tout ce qu'on aura émis jusque-là. Et donc, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Et sur les solutions, justement, on a évoqué des solutions qui peuvent se faire à l'échelle de l'État, mais des solutions aussi d'un point de vue personnel, au quotidien. Si tu devais un peu lister les grandes solutions, les choses qui peuvent être mises en place par chacun dès maintenant, c'est quoi? On a parlé du mode de transport, évidemment, le fait de moins prendre l'avion, le fait de privilégier le vélo dans nos déplacements quotidiens plutôt que la voiture, par exemple, quand c'est possible. Quelle autre chose est-ce que tu vois à l'échelle de l'individu, disons?
Dans les grandes choses, donc sur le transport, c'est un poste important. Ensuite, selon chacun, ça ne va pas être les mêmes volumes. Et d'ailleurs, chacun peut, s'il le souhaite, il y a des sites qui permettent de faire ça. Il y a l'ADEME qui propose un calculateur d'empreinte carbone. Donc, on répond à un certain nombre de questions et ça nous dit où sont les grands postes par rapport à notre situation. Donc, dans le logement... ce qu'on peut faire, c'est baisser la température de chauffage, chauffer à 19 plutôt que plus, peut-être chauffer encore moins certaines pièces qui ne sont pas beaucoup occupées. Dans le tertiaire, s'il y a des bureaux qui ne sont pas occupés le week-end, ne pas les chauffer le week-end. Isoler les bâtiments pour qu'ils aient un confort thermique sans utiliser beaucoup d'énergie. Acheter des appareils qui sont efficaces, qui sont durables, réparables, recyclables. Donc ça, c'est pour le logement. Ensuite, l'alimentation. Le poste le plus important sur l'alimentation, ça va être la part de viande, de ruminants et de produits laitiers. Parce qu'en fait, l'élevage de ruminants conduit à des émissions de méthane, qui est un gaz à effet de serre qui a une courte durée de vie dans l'atmosphère, mais qui a un pouvoir de réchauffement puissant. Et puis ensuite, il y a tout ce qui va être finalement la consommation générale de produits électroniques, de vêtements, etc. Et là aussi, c'est privilégier des choses qui sont durables, réparables,
réutilisables, recyclables,
etc. Mais il me semble, parce que finalement, ce que montre le rapport, c'est que c'est fondamentalement des transformations collectives dont il s'agit. Et puis que finalement, de commencer par une action individuelle, on peut aller vers une action collective, mais parmi les choses qu'on peut faire aussi, c'est se demander comment, dans notre ville où on habite, sur notre lieu d'études, sur notre lieu de travail, dans les cercles d'amis, dans les clubs sportifs, etc., comment est-ce qu'on peut être acteur des transformations
qu'on évoque ici. Et je trouve ça particulièrement intéressant de voir les réactions qu'il y a en ce moment dans le chat d'une partie des personnes qui disent en fait, mais arrêter, enfin je résume avec des très grands traits, mais arrêter, ben non, il y a un commentaire qui dit ça mot pour mot, arrêter de demander aux Français de moins consommer, les entreprises consomment beaucoup plus, et en gros, beaucoup de personnes qui réagissent quand on parle de la question des solutions à mettre en place à l'échelle de l'individu et qui disent, mais nous on peut faire des efforts, mais on en a marre aussi d'avoir le sentiment d'être pointé du doigt et d'être vu comme responsable, coupable ou quoi, alors que d'autres mesures pourraient être prises à l'échelle de grosses entreprises, à l'échelle d'État, et avoir, peut-être pas du jour au lendemain, mais de façon assez massive, un vrai impact. Comment est-ce que tu vois cette question-là? Est-ce que d'ailleurs vous êtes en mesure de mesurer l'impact d'une prise de décision d'un pays comme la Chine ou même la France par rapport à la prise à des changements, même radicaux, mais de comportement de la population?
En fait, ce que montre le rapport, finalement, c'est avec un chapitre qui est spécifique sur la demande d'énergie, de biens et de matériaux, c'est que des actions individuelles, pour vertueuses qu'elles soient, elles ne vont pas faire tout le chemin, et c'est bien des transformations. Enfin, on ne peut pas tout seul choisir de consommer des produits durables si l'offre de produits ne s'est pas transformée. Et pour que l'offre de produits se transforme, eh bien, c'est aussi des politiques publiques qui incitent, forcent, réglementent ce côté offre sur, pour les constructeurs automobiles, pour les producteurs de différents biens. Voilà.
Mais c'est vrai que c'est un retour, je pense, qui revient très très souvent et qui a un ressenti de... Alors soit d'ailleurs de personnes qui ont déjà changé radicalement leur comportement, soit d'autres d'ailleurs qui ne l'ont pas forcément fait, mais qui disent « mais j'ai le sentiment que à l'échelle de l'État ou de telle entreprise, en fait, une décision qui est peut-être dure à mettre en place et qui est courageuse, qui demande du courage, mais devrait être mise en place pour aider. » Merci beaucoup et puis avec plaisir, pourquoi pas, pour te réinviter à l'occasion pour évoquer ce sujet qui forcément est très 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 important.
Merci beaucoup.
Voilà, j'espère que cet échange vous a intéressé. En description, je vous mets des petits liens pour en savoir plus et pour découvrir donc mon format d'interview dans le cadre de cette émission Mashup, interview de personnalités, qu'ils soient sportives, journalistes ou encore artistes. Eh bien, vous pouvez taper Mashup l'interview directement sur votre application de podcast. Écoutez, prenez soin de vous et on se dit à très vite.